Rencontre avec un élu, une émission présentée par Antoine Armstrong, directeur adjoint de Compublic, agence de communication institutionnelle.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Rencontre avec un élu. On accueille aujourd'hui Jean-Philippe Gautret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de Fontenay-sous-Bois, vous êtes maire depuis 2016, vous étiez avant élu à Fontenay-sous-Bois depuis 2008, vous étiez notamment adjoint à l'Habitat, donc bravo pour votre réélection il y a quelques mois. On va parler aujourd'hui d'un projet assez emblématique et d'une taille assez conséquente, puisque vous avez remporté en avril 2025, il y a un an, un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Démonstrateur de la Ville durable auprès de la Banque des Territoires. Et ça vous a justement permis de mettre en place ce démonstrateur qui s'appelle Décarboner Val de Fontenay, qui est un projet extrêmement ambitieux. Vous allez nous en parler. Quels étaient vos objectifs pour lancer ce projet, notamment en matière de logement, de commerce, d'équipement public à réaménager? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Peut-être pour commencer, dire que rapidement, Fontenay-sous-Bois, c'est 54 000 habitants, une ville très mixte. Des quartiers très bourgeois qui peuvent monter à 10 000 euros du mètre carré le long du bois de Vincennes. Et puis une ZUP, ces grands quartiers d'habitat collectif construits dans les années à partir des années 60.
D'accord.
Avec une zone de développement économique qui date de ces années-là. Je vous dis ça parce que, entre autres, depuis, en parallèle, on a une zone de développement économique importante, hein, la première de l'Est parisien, et puis une grande gare et un grand pôle de transport. Et si je vous dis tout ça comme un peu la carte d'identité de la ville, c'est parce que, pour répondre à votre question, c'est important d'avoir ces éléments-là.
Oui, je crois qu'il y a 100 000 voyageurs par jour qui passent.
Exactement.
notamment... Et
ce qui a conduit notre ambition de décarboner, de s'engager dans une démarche bas carbone très très ambitieuse, évidemment. Il y a l'urgence climatique. Aujourd'hui, on peut pas ne pas penser à des projets et à penser à la ville résiliente quand on est décideur public et encore plus quand on est dans l'aménagement. Et notre démarche bas carbone sur Val de Fontenay s'appuie sur évidemment trois éléments phares. Le premier, c'est le pôle de transport, hein, je l'ai dit.
Oui.
Un hub qui demain passera à 200 000 voyageurs jour. On a les travaux de la ligne 15 qui sont en cours, du Grand Paris Express. On a le tramway T1 qui va arriver, et puis on a les études du prolongement de la ligne 1 du métro qui doivent arriver à enquête publique dans deux ans. Et puis on a un pôle gare en rénovation, près de 330 millions d'euros engagés en ce moment sur près d'une dizaine d'années. Donc voilà, c'est un élément important, la mobilité dans la décarbonation. Le deuxième élément, c'est notre réseau de chaleur.
Oui.
Réseau de chaleur qui va passer à la géothermie à horizon 2028.
Sous nos pieds, donc.
Grâce à l'ADEME, l'Agence de développement national sur de l'environnement, nous venons d'obtenir une subvention de plus de 29 millions pour nous engager là aussi dans la décarbonation. On va passer à 90% d'énergie renouvelable, ce qui est un élément important. La question énergétique, la question de la mobilité dans une démarche bas carbone. Et le troisième élément, c'est notre projet d'aménagement, les 100 hectares de transformation de ville sur la ville, qui s'appuie sur les trois R. Réhabilitation, comment on transforme des bureaux en logement, on en parlera tout à l'heure, entre autres. Mais c'est un élément important sur lequel on va s'appuyer. Deuxième élément, c'est le réemploi. On a comment on travaille à des filières de réemploi. C'est pas si simple que ça, pour plein de raisons. Réutiliser des matériaux, on peut faire du greenwashing, mais derrière, il faut le réaliser opérationnellement.
Donc c'est des choses qui progressent, mais encore faut-il que ça puisse se mettre en place
et ça soit efficient. Ouais. Et c'est pas si simple que ça, il faut s'y engager et s'y atteler. Puis troisième élément, c'est la renaturation. Comment, autant la ville de Fontenay est plutôt verte, autant la zone à proximité du pôle de transport et du pôle de développement Val de Fontenay est très minérale. On veut passer de 2% à près de 30% de pleine terre. Donc voilà, c'est des engagements ambitieux, importants, dans lesquels nos partenaires institutionnels nous suivent. J'ai parlé de l'ADEME, j'ai parlé de l'État, puisqu'on est territoire engagé pour le logement. On parlait de la Banque des Territoires, oui, sur Démonstrateur de la Ville Durable, qui nous engage dans un certain nombre d'expérimentations. Alors il y a ce que j'ai évoqué sur les ambitions du projet, mais on en parlera tout à l'heure, il y a la boussole carbone, il y a les bonus-malus.
On va en parler après, effectivement.
Tout un certain nombre de projets qu'on a proposés qui pourraient être dupliqués ailleurs parce qu'on est plutôt, je crois, un bon élève.
Vous l'avez évoqué, c'est la zone de développement la plus importante de l'Est parisien qui représente à peu près 588 000 m2 et vous avez parlé d'un certain nombre d'hectares. Et je note donc du coup ces trois points là, avec le pôle de transport et vous prévoyez notamment de doubler le nombre de voyageurs, ce qui est quand même assez conséquent. Le sujet du développement de réseaux de chaleur en vous appuyant justement sur la géothermie, quand on a de l'énergie sous nos pieds et qu'on peut aller la chercher, autant en profiter. Et puis ce projet de réaménagement avec ses trois jambes, réhabilitation, réemploi et renaturation. On a évoqué rapidement le sujet du logement dans votre présentation. Il y a à peu près 70 000 m2 de bureaux vacants justement qui devraient être transformés en environ 1 500 logements. Il y a cette proposition de loi l'année dernière justement qui a été portée par Romain Daubier pour accélérer la transformation de bureaux en logements. Vous, cette réhabilitation, c'est une démarche de grande échelle. 1 500 logements, c'est assez conséquent. Elle est saluée à l'échelle nationale comme étant pionnière. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui peut être facilement répliqué sur l'ensemble du territoire ou il y a quelques petits ajustements à faire? Voilà, quel est votre avis, votre recul et comment est-ce qu'on pourrait justement dupliquer cette idée?
D'abord, je veux dire que c'est assez vertueux, la transformation de bureaux en logements. Et je le dis d'autant plus qu'au départ, j'étais assez dubitatif. Force est de constater que après la crise du Covid, la crise de l'énergie, la crise de l'immobilier, la crise du bureau et la crise du logement... Il faut s'adapter, mais que c'est une solution vertueuse. Pourquoi ? D'abord, ça vous évite de détruire des bâtiments qui sont pas si vieux que ça. Tous les bâtiments peuvent pas être transformés en logements. Ça dépend de leur tramvière, de la capacité à pouvoir les transformer. Mais il y en a un certain nombre qui peuvent être transformés. Et quand on peut transformer et réhabiter plutôt que détruire, d'un point de vue écologique, c'est plutôt plutôt vertueux.
Le coût aussi, on se dit tiens, c'est plus intéressant de déconstruire.
Exactement.
Reconstruire.
Le deuxième élément, c'est que les formes urbaines existent déjà. Donc les habitants, ils sont déjà habitués à des formes urbaines. Et quand en plus vous avez de la qualité architecturale, comme c'est le cas à Fontenay-sous-Bois, avec notamment la transformation de bureaux signée Niemeyer, Oscar Niemeyer, évidemment que ça a du sens, c'est aussi valoriser notre patrimoine. Troisième élément, quand il y a une crise du logement, qui a un besoin criant de logement, particulièrement en Île-de-France, c'est aussi un moyen de répondre à la crise du logement et notamment à la crise du logement social, puisqu'on fait énormément d'opérations, notamment avec le bailleur I3F. Oui. Ça nécessite une volonté politique forte, ça nécessite un engagement des partenaires institutionnels, parce que ça a un coût. Et donc c'est important que la puissance publique nous aide à la fois dans la transformation environnementale et la résilience du territoire. On parlait de l'ADEME, mais en tout cas sur comment on participe à réduire notre empreinte écologique. C'est vrai aussi dans la puissance publique pour produire du logement et pour éviter de sortir aussi de laisser des territoires en friche, puisque quand vous avez 120 000 m2 de bureaux qui du jour au lendemain quasiment se vident, alors que quand bien même le territoire reste attractif, c'est comment on répond aux besoins des habitants en matière de logement, en matière de commerce et en matière de refaire de la ville sur la ville pour répondre aux besoins du quotidien. Donc il y a des leviers à lever et des contraintes à lever. Mais je crois que quand l'ensemble des acteurs institutionnels s'engagent dans une démarche de ce type, elle est utile pour les habitants au niveau local et c'est effectivement duplicable dans d'autres territoires. C'est aussi pour ça que la Banque des Territoires nous soutient. Elle nous soutient pas que parce que elle trouve notre projet intéressant, elle trouve aussi notre projet intéressant parce qu'il peut être dupliqué ailleurs, et c'est pour ça qu'ils nous demandent aussi d'expérimenter, d'innover.
Mais vous avez un peu un rôle d'ambassadeur aussi, montrer que ça peut se faire et donc ça peut être dupliqué dans les territoires. Et vous évoquiez effectivement le sujet des friches et de l'utilisation d'espaces vacants. Il y a cette loi sur l'artificialisation des sols où justement il faut essayer de privilégier les sites à transformer.
C'est aussi intéressant par exemple pour l'immobilier tertiaire, les investisseurs ou les utilisateurs. Avoir une démarche bas carbone, avoir une maîtrise de l'énergie et de l'énergie propre pour leur bâtiment, ils en ont aussi besoin. Donc l'ensemble de ces éléments, pris en prenant en compte l'ensemble global de la démarche bas carbone, c'est-à-dire en prenant en compte notre démarche d'aménagement sur les bâtiments, sur le projet en tant que tel, mais aussi avec, en prenant en compte les questions de mobilité et la gare, et les questions d'énergie avec le réseau de chaleur, effectivement, on a pour le coup un projet emblématique en termes, j'ai envie de dire, ce que moi j'appelle l'écologie populaire. Comment on répond à l'urgence climatique et à l'urgence sociale, tout en répondant aux besoins d'un territoire, en s'appuyant sur un investissement de la puissance publique très fort au service des acteurs du territoire.
Et je crois que justement, vous évoquez l'empreinte carbone, et on en a parlé tout à l'heure avec ce projet de réseau de chaleur. Il y aura une réduction de 45% de l'empreinte carbone globale du quartier avec la géothermie. Donc c'est cette démarche vertueuse. Alors,
c'est
que
l'objectif.
Vous évoquez.
Notre objectif, d'ailleurs, on va en parler, j'imagine, après, c'est l'enjeu, c'est de rester dans la démarche des accords de Paris, qui est sûrement pas suffisant. Mais notre boussole à nous, la vision qu'on a, c'est d'être dans le respect des accords de Paris, la diminution de manière conséquente de nos émissions de gaz à effet de serre. Si on peut faire mieux, tant mieux. Enfin, déjà, le réussir, c'est pas mal. Et c'est pour ça que on a mis en place des outils tels que la boussole carbone ou le bonus-malus de manière générale.
Vous faites une transition parfaite avec cette dernière question. Justement, avec Marne aux Bois SPL, vous avez mis en place cette démarche boussole carbone que vous avez commencé à évoquer pour promouvoir des projets vertueux et respectueux de l'environnement. Alors, vous avez mis justement en place ce fameux bonus-malus que vous avez évoqué. Comment est-ce que cette idée a émergé? Comment ça se met en place? Est-ce que vous arrivez déjà à mesurer un petit peu l'impact?
Je l'ai pas dit, mais pour maîtriser et porter des projets tels que nous avons à Val-de-Fontenay et leur ampleur, hein, la concession d'aménagement et le projet Val-de-Fontenay, c'est plus de 100 hectares de foncier dans une ville préexistante. Donc c'est 100 hectares sur comment on refait de la ville sur la ville avec des infrastructures routières, autoroutière, ferroviaire importante,
oui, tout que
en
ça
plein
cœur avec le
maillage de la ville. Donc voilà, c'est pas un petit sujet. On a, on s'appuie sur, je préside un petit aménageur, une société publique locale qui s'appelle Marne aux Bois, qui porte le projet pour le compte de la ville, et on a une convention dédiée avec l'établissement public foncier d'Île-de-France, l'EPF, pour maîtriser les fonciers. Je vous dis ça parce que c'est important. On s'appuie sur des outils publics pour porter notre projet d'aménagement en lien avec les acteurs, avec des compétences fortes en matière d'aménagement, de construction, de mobilité en particulier, qui nous permettent de réfléchir et de porter des idées qui vont aller dans le sens de nos projets. Et l'idée du bonus-malus, il est venu comment? C'est que on portait un projet philosophique de dire on va être dans la démarche bas carbone. Alors évidemment, on a la mobilité, la gare, on a l'énergie, le réseau de chaleur, ok. Mais avec notamment les acteurs privés, les promoteurs, les investisseurs, comment on va les amener à ce que au moment où on signe le projet, ils nous disent pas de problème, on va respecter certains nombres de règles,
garantir les objectifs de performance qui soient prévus.
Et puis au moment où on arrive à l'emballage final, c'est-à-dire au moment de construire, ils nous disent non, on peut pas parce que il y a telle contrainte économique, il y a telle contrainte. Beaucoup c'est des contraintes financières, mais aussi des contraintes techniques. Et on s'est dit on va réfléchir à non pas sanctionner, mais comment on va inciter. Et donc c'est l'idée du bonus-malus. Si vous respectez les accords de Paris et si vous allez encore plus loin, vous avez un bonus à hauteur de, je crois, dans un maximum de 5%. Si vous ne les respectez pas, vous avez à contrario un malus de 5% qui derrière va être injecté dans l'opération, et c'est garanti par une fiducie en lien avec la Banque des Territoires. C'est duplicable, on a une envergure de projet qui le permet, et ça permet de vérifier que et d'équilibrer, parce que l'intérêt c'est que ce soit interdépendant. On peut pas le faire avec l'intérêt c'est pas d'avoir un bonus malus, c'est d'avoir une multitude d'acteurs et de projets sur lequel un bonus ici va compenser un malus là, et peut-être que
l'ensemble
plusieurs
des
bonus
opérateurs concernés dans le cadre du projet.
Exactement, ça s'inscrit dans un projet et une cohérence globale. Donc c'est là-dessus entre autres que nous a validé la Banque des Territoires le projet, en lien avec je le mets en lien avec la boussole carbone, puisqu'en fait c'était de calculer la boussole, c'est dans le calcul global et par projet et dans l'ensemble de l'opération globale d'aménagement, là où on va faire potentiellement des économies sur le projet, et des économies évidemment en termes de diminution des gaz à effet de serre et de s'inscrire dans la démarche bas carbone. Et donc la fiducie et le bonus malus s'intègrent dans le calcul de la boussole carbone qui va prendre en compte l'émission de nos gaz à effet de serre et de nos émissions de carbone, carbone sur la mobilité, l'énergie, l'aménagement, enfin tout ce qui comprend et tout ce qui rentre dans ce décompte-là. Donc c'est assez intéressant, c'est assez innovant, c'est à la fois une démarche intellectuelle, philosophique, mm-hmm. politique,
oui,
et à la fois très concrète.
Ouais.
Ça allie les deux, donc c'est assez intéressant pour qu'on ait autant de partenaires qui nous suivent. C'est que on a aussi fait la démonstration qu'on était, on savait être très pragmatique pour essayer de à la fin d'avoir une perspective de réalisation des projets en respectant un certain nombre de critères. Évidemment, on n'est pas dogmatique. Le projet n'est pas dogmatique. L'objectif derrière, c'est d'y arriver, mais en se donnant des curseurs et des invariants qui nous permettent quand même de respecter un certain nombre d'objectifs de départ du projet, et notamment sur les enjeux de résilience et de transition écologique.
C'est vrai que quand il y a 100 hectares de foncier à réaménager, ça, on voit qu'effectivement la notion de bonus-malus à chaque fois pour chaque opérateur sur chaque petit projet, ça a du sens à l'échelle globale. Alors, très rapidement, parce que le temps court, vous avez remporté cet appel à la manifestation d'intérêt en avril 2025. Les prochaines étapes?
Voilà, on est dans la mise en œuvre opérante des bonus malus. On est dans l'accélération de l'ensemble des projets. On vient aussi d'avoir, on a répondu aussi à des AMI sur la transformation de bureaux au logement. On a 4 projets qui sont
en train de se structurer. Enfin,
voilà, on est dans l'accélération du projet qui, alors ça prend du temps, hein, puisque et en même temps avec
La taille conséquente du projet.
Exactement, mais. En gros, et en même temps à l'échelle de l'urbanisme et de la fabrication de la ville, 5-6 ans, c'est pas grand-chose. Et on est dans les fruits récoltés de ce qu'on a fait évoluer en 2020-2022 avec les crises successives.
Donc on vous invitera dans 5-6 ans pour justement venir évoquer et reparler de ce bonus-malus.
Dans 2 ans, au moment où on livrera les premières opérations, la géothermie, et qu'on aura une visibilité un peu plus réelle, concrète, de ce que nous sommes en train de sortir et de faire en ce moment, avec grand plaisir.
Ouais, merci monsieur le maire de cette présentation et de ce projet extrêmement original, démonstrateur de la ville durable et justement décarboné Val-de-Fontenay. Vous avez abordé beaucoup, beaucoup de choses, notamment en matière de transport, en matière de réseau de chaleur, en matière d'aménagement, en matière de logement. Donc on va suivre ça de très près et avec plaisir pour vous recevoir prochainement. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Rencontre avec un élu, une émission proposée par Compublic, agence de communication institutionnelle. À réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Immo et Radio Territoria.